me permettre de prendre la parole aujourd'hui, et puis vous aussi, monsieur Giannini, évidemment. Alors, faut-il encore le rappeler, à la mi-19e siècle, l'Église se méfie de la forme romanesque, et en particulier du roman sentimental, accusé de détourner de leur devoir présent ou à venir les femmes et les jeunes filles par l'excès d'imagination qu'il engendre. Notons que ce constat est toujours d'actualité autour de 1900, comme le révèlent les instructions pastorales, les nombreuses instructions pastorales portant sur la lecture des mauvais livres au cours des années 1880-1920. Et pourtant, malgré cette hantise du roman d'une part et du romanesque d'autre part, force est de constater qu'à partir des années 1880, et ce au moins jusque dans les années 1930, s'observe dans le sous-champ littéraire catholique en voie de structuration une floraison de romans sentimentaux qui font la part belle au romanesque et qui sont écrits par des auteurs tels Marian, Jeanne de Coulon, Mathilde Aigueperse, Mathilde Alanic ou encore Délie, pour ne citer que les plus célèbres, oubliés aujourd'hui. Cette communication portera donc, on l'entend, sur un secteur et ses agents délibérément, et je me permets de le dire sans arrière-pensée réhabilitatrice, injustement oublié par l'histoire littéraire panthéonisante. D'une part, il sera question du secteur populaire du sous-champ littéraire catholique, et à l'intérieur de celui-ci, du roman sentimental catholique, secteur et sous-genre dominé par des transcendantaux éthiquement et esthétiquement contraignants, on l'imagine. D'autre part, il sera question des productrices de ce sous-genre romanesque, sous-genre qui remplit massivement et durablement les catalogues des bibliothèques paroissiales au cours du long 19e siècle. Autrement dit, il sera question d'un sous-genre issu de la culture de masse et qui a façonné l'imaginaire et la vie de centaines de milliers, voire de millions de jeunes filles et de femmes, catholiques ou non. Si on prend par exemple l'exemple de Délie, qui est lu par beaucoup de non-catholiques des familles. Notre intervention se fera en deux temps, nécessaire semble-t-il, pour comprendre les modalités et les enjeux de l'appropriation par les écrivaines catholiques d'une forme littéraire bien spécifique. Tout d'abord, il s'agira d'appréhender les raisons historiques, sociales et idéologiques qui poussent à un nombre conséquent de femmes à investir de manière massive et quasi exclusive, au tournant des 19e et 20e siècles, le sous-genre du roman sentimental catholique, descendant générique du roman édifiant diffusé dans tout le pays par les puissants éditeurs catholiques provinciaux que sont MAM, Mégard, Lefort ou encore Ardent durant les années 1830-1880. Nous nous arrêterons ensuite sur les œuvres et les parcours de deux auteurs de romans sentimentaux catholiques aux destinées de positions bien différentes au sein du sous-champ. Tout d'abord, la très célèbre et célébrée, et donc, comme je le disais, oubliée Jeanne de Coulon, rapidement qualifiée maître du roman catholique par les deux plus importants journaux romans catholiques du tournant du siècle, à savoir L'Ouvrier et L'Éveillé des Chaumières. À plusieurs égards exemplaire de la posture et de la production des romancières sentimentales du tournant du siècle, son parcours et ses romans nous permettent de jauger les fortes contraintes qui règnent sur le sous-genre du roman sentimental et sur le sous-genre du roman sentimental catholique tout particulièrement, à une époque où l'Église et ses représentants littéraires multiplient ce que Brunetière appelle des discours de combat, tant politiques qu'esthétiques. Et je discuterai ensuite d'une romancière passée du sous-genre du roman sentimental au sous-genre plus légitimé, et qui n'est accessible selon la norme qu'au masculin dans le secteur catholique du champ littéraire, à savoir le roman traditionnaliste et ou à thèse, investi principalement par des auteurs comme Paul Bourget, René Bazin et Henri Bordeaux autour de 1900. Cette écrivaine n'est nulle autre que Colette Hivert, qui a publié, on l'oublie trop souvent, pas moins de 8 romans sentimentaux pour jeunes personnes chez Mégard, avant de publier son roman pour adultes, Les Cervelines, chez Calman Lévy en 1903, qui a eu un grand retentissement médiatique et reprend en grande part la trame du roman sentimental. Le choix de ces deux auteurs, qui occupent initialement une position identique dans le sous-champ littéraire catholique et produisent toutes deux leurs premiers romans dans des collections identifiées pour jeunes filles au cours des années 1890, n'est pas anodin. Il permet en effet d'appréhender plus finement l'espace fini, justement l'espace fini des possibles sociaux et esthétiques en régime catholique populaire au féminin, puisqu'à la posture continuellement orthodoxe et pour ainsi dire doxique de Jeanne de Coulon, répond celle de Colette Hivert, dont la singularité est une preuve de plus, en réalité, de la domination qui pèse sur la majorité des productrices du sous-champ. En d'autres termes, Colette Hivert apparaît bel et bien comme l'exception qui confirme la règle. Enfin, de manière plus générale, j'essaierai de répondre, de résoudre le paradoxe énoncé auparavant selon lequel l'Église ne cesse de condamner discursivement le romanesque tout en soutenant activement des productrices qui ne peuvent s'en défaire qu'avec difficulté, le romanesque ayant, comme le rappelle Alain Schnaffer, je cite, une valeur pragmatique d'articulation entre le monde réel et celui des œuvres, que l'Église et ses représentants littéraires ne peuvent négliger dans leur élaboration d'une littérature pragmatiquement fondée. Et donc il s'agira de voir quelle stratégie textuelle nos deux auteurs emploient dans un genre fortement codifié pour éviter la critique souvent facile émanant de leur propre camp, puisque malgré des critiques éparses, ces deux romancières sont adoubées continuellement par les milieux catholiques. Et il semble bien dominant. Et il semble bien, comme on le verra, que c'est par le brouillage ou le mélange des genres que tout se joue. Alors l'Église, engagée depuis les années 1830, on le sait, contre les mauvaises lectures, réaffirme au cours du second 19e siècle sa détermination à s'attaquer aux romanciers laïcs et aux romancières laïques de tous bords et à leur production par la défense et l'illustration de ce qu'on appelle alors assez vaguement l'idée catholique autorisée. par la défense d'abord, ce qui se traduit médiatiquement par la mise à l'index de plusieurs romanciers populaires dans les années 1840-1860, et notamment d'Eugène Sue en 1852, mais incapable de contrôler l'ensemble de la production imprimée, c'est-à-dire de réguler moralement la circulation des idées, l'Église, dont la stratégie éditoriale et pastorale est axée sur la reconquête du peuple, choisit au fil des années de changer de stratégie et de s'adonner à l'illustration de l'idée catholique. En somme, donc, l'Église décide de contrer le mauvais livre par le bon livre, c'est-à-dire ce qu'on a vite appelé dans les milieux confessionnels autorisés le roman catholique, justement. C'est l'encore mal connu, génériquement parlant, roman édifiant des années 1830-1880. Celui-ci, destiné prioritairement aux enfants et secondairement aux jeunes personnes et jeunes gens, notamment via les distributions de prix dans les écoles chrétiennes, laissera ensuite la place à partir des années 1880, c'est-à-dire lors de la crise du livre de prix, à son descendant générique, le roman sentimental catholique, qu'on devrait peut-être moins appréhender comme un sous-genre relevant d'un absolu nouveau qu'une des deux modalités d'un espace, qu'est l'édification, occupée également par le roman édifiant. Tout laisse donc à penser que la production massive de romans sentimentaux catholiques à partir des années 1880 accompagne les efforts de l'Église pour la reconquête de la petite bourgeoisie et des classes populaires, notamment rurales. Par ailleurs, il est évident que la prise en charge définitive de l'éducation des filles par la Troisième République au début des années 1880 n'est pas pour rien dans le changement de stratégie éditoriale de l'Église et des éditeurs qu'elle contrôle encore largement. Craignant en effet l'avènement définitif du flirt dans les mœurs et la banalisation du divorce, rétabli, on le sait, en 1884, l'institution ecclésiale appelle, par le biais notamment des trois plus importantes revues bibliographiques qu'elle contrôle et qui contribuent à renforcer l'hétéronomie du sous-champ littéraire à la fin du siècle catholique, à savoir la bibliographie catholique, le Polybiblion et la revue des lectures de l'abbé Bethléem, l'Église appelle donc les clercs des petites communes et les pères de familles bourgeoises à propager dans les familles chrétiennes le roman sentimental porteur de valeurs catholiques explicites et autorisées, c'est-à-dire hiérarchiques, autrement dit, des valeurs catéchistiques telles qu'elles sont propagées et rendues explicites en chaire. Ainsi, par exemple, alors que plusieurs recenseurs de la bibliographie catholique dirigée par l'abbé Béraud des Billiers s'inquiètent dès 1840 du fait que la rivalité entre les éditeurs catholiques causée par la création de multiples collections dirigées vers la jeunesse engendre une multitude de romans qui offrent, je cite l'abbé des Billiers, de ces situations forcées et invraisemblables qui sentent le mélodrame, une marche et un dénouement romanesque tendant à fausser les idées de la jeunesse féminine. Dans les années 1880, la même revue bibliographique neutralise ces critiques d'antan, alors même que l'identité structurelle entre le roman sentimental et le conte de fées et le goût du lectorat pour les ficelles du roman feuilleton sont propices à la mise en texte d'un romanesque échevelé. Et comme on le remarque à l'analyse de ces revues, plus de 75 des ouvrages recensés sont des romans sentimentaux. À titre de comparaison, c'était moins de 60% des romans édifiants qui étaient recensés quelques 40 ans plus tôt. Bref, il est clair que l'Église appelle directement ses membres à louer le roman sentimental et invite indirectement les jeunes filles et les femmes, même dénuées de culture lettrée, à produire des romans pour jeunes filles, puisque comme le rappelle à ses lectrices le célèbre écrivain édifiant catholique Eugène de Margerie dans Les Veillées des Chaumières en 1878, très célèbre à l'époque, je cite, « Le véritable écrivain, et ce n'est pas toujours l'écrivain de profession, tout entier aux pensées dont il est le héros, ne se préoccupe de la forme qu'il leur donnera, qu'elles se donneront à elles-mêmes, que pour maintenir cette forme à son rang, à un rang secondaire après tout, c'est-à-dire après les idées. » Pour ce qui est des productrices de ce type de roman, on comprend bien pourquoi l'Église invite à demi-mot les jeunes filles et les femmes à écrire. Le monde catholique voyant la femme au XIXe siècle avant tout comme une éducatrice et une gardienne des âmes, elle n'est pas la seule évidemment, elle est jugée capable de convertir, donc, ou à tout le moins de garder dans la foi les jeunes lectrices tentées par ce qu'on appelle alors la morale indépendante. C'est d'ailleurs l'un des rôles dévolus à la jeune fille et à la femme dans le système des personnages du roman sentimental, mais également du roman moyen catholique, ce qu'on appelle la bonne catholique, donc selon le mot de Michela Di Giorgio, ne se devant d'être humble et sans prétention intellectuelle, elle pourra donc privilégier le contenu édifiant à la ciselure du style, et son travail acharné offrira plusieurs avantages. Elle occupera utilement son temps et luttera contre l'oisiveté féminine, tout en mettant ses compétences imaginatives au service des projets éditoriaux de l'Église enseignante. Elle devra donc inculquer aux lectrices les valeurs de ce que Dely nomme dans toute son œuvre l'amour permis, c'est-à-dire l'amour chrétien modelé sur le modèle de la chaste Vierge Marie, d'où l'occultation des parties du corps au-dessous du visage et le silence sur les questions physiologiques et de sexualité dans ses romans. Par ailleurs, laisser aux femmes catholiques la possibilité d'investir uniquement le sous-genre du roman sentimental au tournant du siècle, c'est-à-dire un sous-genre au cadre rigide, sinon rigidifié, sous-genre au programme narratif plus codifié encore que le roman traditionnaliste, puisque ces étapes narratives, à savoir savoir une rencontre entre une jeune fille vierge et un homme, qui sera souvent pensé comme le prince charmant, puis une série d'obstacles qui servira à prouver la valeur morale des deux amoureux et donc à légitimer leur union. Enfin, la réconciliation finale, qui passe obligatoirement par le mariage sanctifié par un membre du clergé, puisque ces étapes narratives, donc, réduisent toute liberté de création et rappellent indirectement à l'écrivaine le rôle utilitaire de ses romans en série et sa fonction non pas de créatrice, mais d'éducatrice. D'ailleurs, la pratique du pseudonymat, usuelle certes au-delà des milieux catholiques, mais très usuelle dans les milieux catholiques, les milieux féminins littéraires catholiques, est une preuve supplémentaire, s'il en fallait, de l'humilité et des contraintes imposées par les éditeurs catholiques et le monde catholique en général aux ouvrières des lettres, comme les appelle Hélène Constant, qui ne sont là non pas pour la gloire, mais par militance morale, comme beaucoup d'ailleurs s'en réclament. Rappelons à ce propos donc Jeanne de Coulon comme Colette Hiver sont des pseudonymes, l'un de Cécile Marguerite de la Grandval qui prend plusieurs autres pseudonymes et l'autre d'Antoinette de Bergerin. Quant aux jeunes filles, elles ont tout intérêt, selon l'Église, à lire les romans sentimentaux. D'une part, la proximité de l'âge des lectrices et des nouvelles entrantes sur le marché du livre permet une meilleure appréhension des volontés électorales des jeunes lectrices et donc potentiellement une acquisition plus fluide par ces dernières des éléments édifiants et des valeurs féminines catholiques distillées par les diverses instances fictionnelles. Par ailleurs, la sérialité, inhérente au genre, permet de suivre la lectrice depuis son plus jeune âge jusqu'à son mariage, selon le mouvement amorcé par l'œuvre des bons livres de Bordeaux et son directeur l'abbé Barrault, dès les années 1830, qui soulevait l'importance de guider, je le cite, « pas à pas les jeunes personnes », c'est-à-dire année après année, raison pour laquelle la plupart des catalogues de bibliothèques paroissiales divisent leur liste en plusieurs catégories, s'articulant aux divers âges et étapes socio-religieuses de la jeune fille, en gros la première communion et le mariage. Bref, il semblerait donc que la répétitivité et la difficulté du roman sentimental catholique à se renouveler dans son cadre narratif, tout comme sa potentialité à s'adapter thématiquement au mode du temps, comme le sport féminin, dans une moindre mesure le travail féminin aussi, il semblerait donc que cette contrainte permission textuelle en fasse un genre idéal pour des catholiques dont beaucoup veulent montrer qu'ils sont loin d'être les misogynes anti-romans qu'on les accuse d'être dans les milieux républicains. Car le surcodage narratif et axiologique limite le romanesque toujours en germe dans la structure du sous-genre lui-même, romanesque que volontiers dénoncé dans les autres sous-genres investis par les romanciers catholiques masculins et qui ne conviennent donc pas aux jeunes filles, comme le roman historique, le roman scientifique ou le roman judiciaire. Car en offrant à la jeune fille une structure simplifiée, car stéréotypée, qui la dégage du dehors du texte, pour reprendre une expression de Marc Angenot, puisque la liseuse connaît par avance les étapes du texte, le roman sentimental prône in fine l'idéologique sur le textuel, le savoir-vivre chrétien, constituant la dominante normative des textes. Mais je vais m'intéresser sans plus tarder maintenant à ces deux figures que sont Jeanne de Coulon et Colette Hiver, qui font entendre ici comme deux cas particuliers du possible, deux modalités d'appropriation du sous-genre du roman sentimental catholique au tournant des 19e et 20e siècles. Et ce, pour montrer les contraintes génériques et idéologico-éthiques qui pèsent sur ces dizaines d'ouvrières des lettres. Car si Jeanne de Coulon a le parcours typique d'une romancière asservie au goût du marché et aux injonctions ecclésiales, Colette Hiver, quant à elle, ne parvient à sortir des contraintes imposées par le sous-genre qu'en opérant une rupture symbolique et générique en 1903 avec son roman Les Cervelines. Avec plus de 100 titres à son actif, Jeanne de Coulon est l'une des nombreuses romancières catholiques qui fournissent régulièrement les journaux romans dans Gauthier Langros à la charnière du XXe siècle. Ces romans, qui reproduisent des modèles féminins élaborés en dehors d'elle, évidemment, proposent deux canevas qui visent à circonscrire l'idéal de vie de la lectrice. Soit la figure de la jeune fille se marie avec un jeune homme bon, après avoir enduré des étapes enclenchées par un serment initial qui forme le pacte de lecture, soit la jeune personne refuse in fine de se marier pour se faire religieuse, institutrice ou dame d'œuvre. Son roman « La gardienne du seuil », publié en 1924 chez Hirt, va même jusqu'à confondre ces deux programmes narratifs. Son héroïne, Germaine, promet dès la première page du roman à son père militaire de s'occuper de son frère qui est, je cite, « terriblement léger ». Et malgré ou plutôt grâce à de durs combats contre la frivolité d'une belle-mère et des revers de fortune qui rendent la famille pauvre, la jeune fille réussit à convertir sa belle-mère, son frère et son mari à l'humilité et au travail chrétien, sans quoi le dénouement heureux et héroïque ne peut subvenir, et la jeune fille se trouve décrite à la dernière page du roman comme une sainte mariée, et pourtant entièrement chaste, à l'instar de la Vierge Marie. Elle apparaît ainsi dans sa maison de patronage, que son ennemie d'hier, Madame Rochabet, appelle, je cite, « la maison de Sainte-Germaine ». On comprend bien pourquoi Jeanne de Coulon est nommée l'un des maîtres du roman catholique au tournant du siècle. Et si elle est ainsi nommée par l'éveillé des Chaumières et parvient à éviter la critique du romanesque, qui pourrait pourtant s'appliquer à nombre de ses œuvres et touche plusieurs de ses consoeurs, c'est parce que, parallèlement à ses romans sentimentaux, aux allures de contes de fées chrétiens, la romancière publie à intervalles réguliers des romans davantage portés par l'édification pure et qui déjouent les attentes des lectrices en matière de romanesque échevelée. C'est ce qu'elle fait par exemple dans son roman Héroïne, publié en 1898, dans lequel on peut voir un détournement générique du roman sentimental le plus conformiste. Ainsi, la scène de rencontre est évacuée en une seule page, après que la jeune fille a elle-même appelé sa mère à ne pas lui lire de contes de fées, préférant qu'elle lui relate pour la énième fois l'histoire de sa grand-mère, véritable héroïne du quotidien, qui a sauvé son époux en défiant physiquement, et bien sûr sans violence, un Allemand ivre proche de la tuer. Colette Hiver, quant à elle, ne choisit pas de jongler entre roman édifiant et roman sentimental. Après avoir produit 8 romans sentimentaux dans lesquels, comme le rappelle Michel Manson, je cite, « tout s'arrange comme dans les contes de fées », elle opère une rupture générique et symbolique avec son roman « Les Cervelines » en 1903. Dans son cas, c'est le mélange de la trame du roman sentimental et des idées idéologico-sociales qui imprègnent le roman à thèse masculin, catholique, qui est à son apogée autour des années 1900-1915. Qui permet à cet auteur de monter dans la hiérarchie des sous-genres et de changer de position au sein du sous-genre littéraire catholique, lui permettant d'atteindre un point habituellement refusé aux femmes auteurs catholiques. Et il nous est pas ici possible d'analyser en profondeur cette œuvre complexe qui traite de la question des femmes au travail, et donc je me contenterai en fait de formuler quelques hypothèses sur une auteure dont les idées sur la place des femmes en société sont débattues par la critique contemporaine. Tantôt, en effet, elle est présentée comme une antiféministe, claire, qui appelle les femmes à rester au seuil du foyer, tantôt elle apparaît comme une proto-féministe injustement oubliée. Il semble en réalité que la révolution symbolique qu'elle opère dans le sous-champ littéraire catholique, justement avec les Cervelines, s'explique par la conjonction d'un faisceau justement de choix internes et de contraintes externes qu'on n'a pas assez voulu voir. Pour quitter la position dominée qu'elle occupe en tant que romancière sentimentale, au cours des années 1890, dans le champ d'ailleurs tant catholique que laïque, Colette Hiver décide de rejeter la vision trop peu réaliste et trop superficielle du monde évoquée par les romans sentimentaux catholiques et d'investir une thématique sociale d'actualité prisée par les romanciers à thèse comme Paul Bourget, mais également les romancières laïques davantage reconnues comme Gabriel Réval et ses Sevriennes publiées en 1900. Et en donnant des traits semblables à ceux de la Vierge Marie, à deux de ses héroïnes féministes, et en faisant triompher son historienne Marceline Ronan à la fin du roman, qui refuse finalement d'épouser le docteur Jean-Cécile, l'auteur opère un brouillage sémantico-idéologique au sein du texte, qui passe par une poétique de l'ambiguïté, qui se traduit par le refus d'arrêter le sens de sa fiction et de ses personnages, contrairement évidemment à ce qui se passe en régime catholique autorisé à la même période. De fait, elle dépasse la norme suprême imposée aux romancières catholiques autour de 1900, l'édification maximale. Et cependant, les choix opérés par l'auteur, n'en doutons pas, sont contraints éthiquement parlant. Catholique convaincue, Colette Hiver, si elle produit désormais des œuvres qui quittent l'univers strictement religieux du roman sentimental, pour s'ouvrir à un lectorat plus large, ne peut obtenir la publication chez Calman Levy et atteindre une position occupée normalement par des romanciers catholiques masculins au sein du sous-champ qu'en gardant la trame du roman sentimental de la rencontre à la conjonction. De la même manière, on remarque que si elle donne des traits Mario à certaines de ses féministes, comme je l'ai dit, ce sont que les féministes qui restent les plus féminines. Marceline Ronan et Eugénie Lebrun. Les femmes nouvelles trop masculinisées, telles la doctoresse Jeanne Boerck, reçoivent des évaluations négatives distribuées par le narrateur et par l'ensemble de ses porte-paroles fictifs, ce qui tend à rassurer le lectorat populaire et moyen catholique habitué à intégrer les évaluations et les valeurs fournies par la boussole morale qu'est le narrateur autorisé. Critiquée par certains catholiques pour le dénouement des Cervelines, Colette Hiver choisira d'ailleurs de donner une fin contraire aux deux autres romans qui forment sa trilogie, dans lesquels la femme médecin et la femme avocate quittent leurs emplois pour se consacrer au foyer. C'est dire qu'elle ne renonce pas à s'adonner à l'éducation sociale et affective de la jeune femme, après s'être adonnée dans ses premiers romans à l'éducation sentimentale de la jeune fille. Bref, la trilogie de Colette Hiver tend à montrer la délicate posture et les contraintes tant internes qu'externes qui pèsent sur la production des femmes en régime catholique autorisé. Pour une catholique orthodoxe, en effet, il est impossible de rompre directement avec l'Église. Il faut donc trouver des moyens textuels de rassurer le monde catholique tout en évitant l'édification pure et simple qui n'assurait à la femme auteure qu'une place dominée dans le sous-champ. Finalement, Colette Hiver est parvenue à faire les deux sur le long terme. Rappelons qu'elle est en même temps l'une des membres du jury Femina de 1913 jusqu'en 1951 aux côtés de Séverine et de Daniel Le Sueur, et qu'en 1917, elle est la première femme reçue, miraculeusement, dit le chanoine prudent dans son discours de réception, à la très conservatrice Académie des sciences, belles lettres et arts de Rouen. Je vais conclure. On comprendra donc mieux, je l'espère, la difficile position, la difficile négociation des écrivaines dans le sous-champ littéraire catholique à la charnière du XXe siècle et les rapports entre sexe féminin et sous-genre du roman sentimental. Il s'agissait surtout ici, avant tout, de rappeler l'existence et l'importance quantitative de cette production d'évaluer, si ce n'est pour comprendre les stratégies textuelles employées par les auteurs laïcs légitimes, dits légitimes pour les conspuer, comme a pu faire un Zola avec Le Rêve, par exemple, qui déjoue la doxa catholique de la jeune fille sentimentale. mais ça permet aussi de comprendre davantage les récriminations bloyennes et de Nuismans contre le roman sulpicien, et finalement, ça peut aussi nous conduire à nous interroger sur l'amitié surprenante et non encore élucidée, me semble-t-il, entre un Nuismans et une Mathilde Aigueperse, qui dédicace plusieurs de ses romans pour jeunes filles à un écrivain, donc Nuismans, qui rejette pourtant le personnage de la jeune fille naïve pour la sainte ou la prostituée, et qui a toujours accusé le genre du roman sentimental d'offrir aux jeunes personnes, avec le roman spiritualiste à la Octave Feuillet ou Georges Genet, je cite une de ses lettres à l'écrivaine, « un tremplin de rêverie romanesque qui les fêle ». Et plus généralement, cela permet de comprendre le partage des tâches imposées par les agents du sous-champ littéraire catholique au tournant du siècle. Aux écrivaines populaires catholiques est dévolu le droit ou le devoir de convertir les jeunes filles et les femmes par le récit amoureux et de saturer l'espace littéraire catholique via leurs centaines de productions, suivant la volonté explicite de l'institution ecclésiale et de ses éditeurs d'hétéronymiser davantage le sous-champ littéraire catholique. Et aux écrivains populaires catholiques masculins est dévolue l'écriture du roman historique qui institue à la fin du siècle une nouvelle histoire nationale aux lueurs religieuses et contre-révolutionnaires. Mais cela n'empêche pas que le nouveau droit accordé aux romancières en régime catholique signale une certaine liberté contrôlée et une plus grande prise d'influence au féminin par le biais de l'écriture sérielle. Je vous remercie.